C'est Arsène Lupin. Donc, c'est quoi? On va parler de piratage, c'est ça, Yves Daou?
Oui, bon matin. Salut. Écoute, on a été vraiment surpris de voir ça. Il y a eu une publicité qui a été faite par l'École Polytechnique pour annoncer un concours qui a lieu le 5 et 6 février. C'est la deuxième édition d'un concours de piratage éthique à Canada-France. Qui se déroule. Et là, tu as des jeunes qui viennent un peu partout pour, justement, des hackers, ce qu'ils appellent un hackathon, pour être capable de, tu sais, dans une situation virtuelle, de pénétrer les systèmes informatiques, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est un des grands commanditaires, c'est Desjardins.
mais c'est parce qu'ils veulent recruter des experts en sécurité, parce qu'il n'y a rien de mieux pour sécuriser ton système qu'un gars qui sait comment le contourner.
En fait, tu sais, quand on dit aux grands mots et les grands moyens, mais tu sais, if you can beat them, join them. Hein? Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ça, on a évidemment appelé Desjardins, tout ça, et c'est là qu'on a appris que Desjardins est en train d'injecter plus de 350 millions dans son bureau de sécurité. Puis là, évidemment, ils doivent recruter des experts. Déjà, dans ce bureau de sécurité-là, il y a 1200 experts. Donc, c'est bien plus que 350 millions qu'ils investissent, là. Donc, l'événement d'il y a 3 ans, là, qui est cette fameuse fuite de renseignements confidentiels, là, a probablement, tu sais, allumé l'alerte chez Desjardins.
Ben oui.
Et donc, ils sont en train vraiment, là, de consolider, de solidifier tout leur système pour faire face aux enjeux de cybersécurité, les cybermenaces et la fraude. Et je te rappellerai quand même qu'il y a eu un sondage qui a été fait par une firme qui s'appelle PwC récemment. Et ce qui est fascinant, là, c'est que les entreprises actuellement, là, ce qui les inquiète là, par rapport au plus grand impact, là, c'est les cybercriminels. C'est tous leurs sous-traitants et sous-traitants de sous-traitants là, avec qui ils font affaire. Là.
Ben oui.
Tu sais pas comment ces gens-là peuvent être eux-mêmes impliqués dans la cybercriminalité. Les cyberattaques sur des services info nuagiques, tu sais, de plus en plus, là, tu sais, tout se retrouve plus dans des serveurs, dans ton, toi-même, chez toi, là, ça se retrouve
dans le cloud,
là, et qui a le contrôle de ce cloud-là? Personne ne le sait vraiment.
Ben, tout à fait.
Tu sais, la préoccupation des cellulaires, je sais pas si toi, tu fais beaucoup de transactions bancaires à travers ton cellulaire,
oui.
Tes transactions,
ben, oui.
Tout ça. Tu sais, il y a un moment où ce que toutes les banques, puis tous ceux qui sont dans les services financiers, là, ils vont devoir s'assurer que tout est étanche pour s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations...
Fait que là, tu vois que les entreprises sont sacrément vulnérables, hein? Vraiment. Y a-tu un peu une opération relations publiques où c'est Desjardins de s'associer à un événement comme ça en disant, regardez, là, on prend ça à cœur, la sécurité informatique.
Moi, je pense que c'est qu'ils sont sérieux. Je pense que l'idée, c'est que l'enjeu du recrutement est un enjeu majeur, là. T'sais, ils vont se retrouver, l'année passée, il y avait à peu près 200... spécialistes, là, des jeunes étudiants, des semi-professionnels se sont trouvés là. Donc, potentiellement, il y a un potentiel de recruter ces gens-là. Tu sais, il n'y a rien de mieux qu'à engager un hacker.
Ben oui, tout à fait.
Il doit savoir comment ça fonctionne.
Exactement. Et tu veux Arsène Lupin de ton côté. L'omniprésence de l'anglais au CN qui est dénoncée de toutes parts.
Ah, donc, évidemment, beaucoup de réactions à notre article d'hier. Là, évidemment, bon, beaucoup de réactions politiques. Simon Jolin Barrette qui dit que les Québécois doivent pouvoir travailler, être servis et être informés dans leur langue, c'est un droit fondamental. Puis il dit que ça s'applique à la langue de travail, la fameuse loi 96. Donc, quand même, c'est lui qui est responsable de justement de l'application de la loi. Tu sais, puis le Québec solidaire, c'est quand même intéressant quand il disait encore une fois, on voit que Michael Rousseau n'était que la pointe de l'iceberg. C'est vrai, parce qu'on va découvrir tranquillement que... Et j'ai bien aimé Mario Beaulieu du Bloc québécois qui dit « On se croirait il y a 50 ans quand l'anglais était la langue des affaires et la promotion sociale. » C'est vrai, écoute, on a l'impression de revenir à une époque où, tu sais, le temps des bouffons, tu te rappelles?
Ben oui!
Du film de Falardeau, où tu avais Roger Deslandry de la presse qui... saluait tous ces anglophones-là qui étaient au Beaver Club et tout ça.
Ils sont donc, comme, Yves, décomplexés. Ils gênent même plus maintenant de parler rien qu'anglais. Là. Tu disais Banque Laurentienne, Air Canada, l'ECN, la gouverneure générale aussi du pays, qui est une langue anglaise. D'ailleurs, Y a fait une caricature assez rigolote aujourd'hui. Ou c'est Jean Charest qui leur donne des cours de français à tout ce monde-là. Mais bref,
ils vont l'appeler John.
Ben oui, John James. As-tu un Botticelli chez vous, dans ton salon?
Non, j'en ai pas, mais toi, tu t'en as acheté un?
Tabouin, 53 millions de dollars. Wouh! Ceux qui investissent dans l'art, là, c'est un tout un investissement. 53 millions de dollars. Et d'ailleurs, il y en a un qui a passé go puis qui a ramassé de l'argent, c'est l'ancien PDG de Transcontinental. Transcontinental va verser une prime de 1,5 million à son ancien grand patron qui prend sa retraite. Mais là, dans le texte de Sylvain Larocque aujourd'hui dans la section argent, c'est écrit qu'il va prendre sa retraite entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, entre guillemets?
Je ne sais pas si tu te rappelles, on a écrit un article dans le samedi du journal le 15 janvier. C'est rare que tu sais qu'il y a une situation où un divorce se coûte autant une société du Québec Inc. Je te rappellerai que le PDG de Transcontinental et la présidente du conseil d'administration, qui est Isabelle Marcoux, là, c'était un couple qui était à la tête de cette entreprise-là. Tu sais, toutes les histoires de couple et de divorce célèbres, là, tu te rappelles Bill Gates et Melinda Gates, Jeff Bezos avec Mackenzie Scott, puis Steve Wynn et Ellen Farwell-Wynn des Mirage Resort, là. Écoute, c'était des divorces célèbres.
Ben
et
ouais.
Ici, on a notre cas ici réel où, justement, l'ex-PDG François-Olivier était en processus du divorce au moment de sa retraite avec Isabelle Marcoux, qui est quand même la fille du fondateur de Transcontinental et qui est présidente du conseil. Et là, ce qu'on apprend dans la dernière déclaration, c'est que des actionnaires ou de la direction, c'est qu'ils vont y verser une prime spéciale de 1,5 million avant de quitter pour prendre sa retraite. Et ce qu'on précise dans l'entente, c'est que l'ex-dirigeant de 56 ans a conclu avec l'entreprise le droit d'obtenir un paiement d'environ 4,8 millions de dollars pour des unités d'action.
Yeah.
Puis au moment de son départ, le 15 décembre, là, il détenait au total plus de 19 millions de dollars d'actions. Donc, puis en plus, il y a son régime de retraite dont la valeur totale est de 6,5 millions de dollars. Donc, il quitte. Peut-être en mauvais termes.
Il va payer une méchante pension quand même. Là. Ah, on s'entend là.
On ne le sait pas encore.
Mais écoute, en mauvais termes, mais bon, avec une enveloppe quand même assez garnie. Est-ce que c'est son choix de quitter ou c'est parce qu'il s'est divorcé avec la fille du fondateur qu'on lui a dit, ben là, on ne veut plus t'avoir dans l'entreprise?
Ah, écoute, on s'est pas rendu dans le détail de tout ça, mais mettons que... Quand il y a une entreprise familiale là, qui vient un divorce comme ça, puis ça peut, ça peut endommager beaucoup de relations interpersonnelles dans l'intérieur de l'entreprise. Ben, on n'a pas voulu aller aussi loin.
OK. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans la section argent ce week-end?
Écoute, tu vas adorer notre section ce week-end. D'abord, tu sais, le CNN là, aux États-Unis font leur chou gras avec ça. Là. Les gens qui vont dans les magasins puis voient des tablettes vides à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Les gens, il n'y a plus assez de monde pour mettre la marchandise sur les tablettes. T'as aussi le problème du camionnage puis du transport de marchandises. Donc, on a été sur le terrain puis on a effectivement commencé à observer ça ici au Québec. L'autre chose que tu vas adorer, c'est, tu sais, les petits commerçants des rues là, au Québec, là. Dans nos, tu sais, l'avenue Mont-Royal, un peu partout, là, tu sais, qui font du commerce depuis 30 ans, 40 ans, ben souvent, ces gens-là ferment les portes. Puis là, les gens sont vraiment déçus. On a un commerçant de l'avenue Mont-Royal, ça faisait 28 ans qui était dans le secteur de la chaussure, puis il ferme ses portes.
Ah oui?
Ah oui. Et donc, on l'a interrogé, vraiment toute une histoire autour de lui. Donc, vous allez le découvrir. Tu sais très bien que de plus en plus, il y a des riches à travers le monde qui se déclarent qu'il faut payer plus d'impôts. Les riches ne payent pas assez d'impôts. Écoute, non, mais c'est vrai, il y a quelques riches, mais quand tu as beaucoup d'argent, peut-être tu es prêt à en payer plus. Mais on a un cas ici au Canada qui s'appelle Jonathan Gunam. C'est un gars qui a fondé une compagnie pharmaceutique et on l'a interviewé. Et vraiment intéressant de voir qu'il y a quand même des riches qui se préoccupent encore de l'inégalité.
Lui, il veut payer plus d'impôts.
Oui, oui.
Il peut m'envoyer de l'argent aussi, je peux lui donner son adresse. S'il veut absolument se départir une partie de sa fortune, je vais l'aider.
Je sais pas si John Awad serait intéressé par une déclaration similaire.
Je suis pas sûr.
Et en terminant, on va avoir un très bon article samedi sur le bilan des fermetures des caisses, des jardins et des guichets. Tu sais que c'est toujours un sujet qui préoccupe les gens en région. Donc, on a fait le bilan là, de ce qui s'est passé en 2021.
Ben, écoute, on va lire ça, bien sûr, puis la manifestation de camionneurs, ça va certainement avoir un impact sur l'économie, ça aussi, hein?
Écoute, hier, on a vérifié avec des compagnies de transport, puis en général, on pensait qu'il y aurait un plan de contingence de leur part, mais je pense que pour eux autres, c'est encore un phénomène isolé. Okay. Mais on verra c'est quoi les répercussions sur ça, mais écoute, moi, je pensais aller patiner sur le canal Rideau ce week-end, mais je pense que...
Oublie ça. Salut, Yves. Salut. Bon week-end. Bye.
Bon week-end. Au revoir.